Mes parents n'étaient pas des immigrés imaginaires, mais bien réels, avec leurs spécificités. De familles originaires du continent noir et d'Asie du Sud, ils ont fait le voyage jusque dans ce pays il y a plus d'un demi-siècle. Ils ont travaillé toute leur vie, elle comme gardienne d'enfants et lui comme ouvrier d'usine. Ils ont subi de nombreuses humiliations et souffert dans leur corps, fait des sacrifices et connu les privations. Ils ont trimé et réussi à élever un fils devenu écrivain, qui est également professeur de littérature, chose dont ils sont fiers, mais qui les rend aussi perplexes quelquefois. Ils ne comprennent pas tout en moi. Pourtant, je suis convaincu qu'ils croient, à juste titre, être parvenus à donner une meilleure vie à leur fils, et qu'ainsi j'échappe à la plupart des épreuves, sinon toutes, auxquelles ils ont été autrefois exposés. Mes parents ne m'avaient révélé l'histoire de leur passé qu'avec retenue. Ils n'avaient pas facilement trouvé les mots pour m'expliquer comment leurs ancêtres avaient fini par arriver en Amérique, me dire les horreurs de l'esclavage, l'amertume de l'engagisme. Ils n'avaient pas beaucoup parlé non plus de leur enfance à Trinidad, sans doute parce que les traumatismes de ce passé étaient encore très tangibles, sinon parce que, comme de nombreux immigrants, ils souhaitaient imaginer pour eux-mêmes et pour leurs enfants une histoire différente de celle de leurs origines.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Depuis la nuit des temps, les hommes ont quitté leur pays de naissance pour s'en aller ailleurs, chercher une autre vie. Qu'ils soient poussés au départ par la guerre ou la misère, le goût de l'aventure ou le besoin de liberté, ces migrants sont le sel de notre terre, apportant avec eux l'enthousiasme et l'espérance, la force de leur investissement et une foi naïve dans les valeurs proclamées de leur nouvelle patrie, qui trop souvent leur dénie le droit d'en profiter. Les vieilles démocraties européennes ont toujours été peu accueillantes, mais il est sidérant de constater que les pays construits par des immigrants, comme les États-Unis et le Canada, n'échappent pas à cette méchante peur de l'autre, celui qui présente un visage différent du sien. David Chariandi est canadien. Il enseigne la littérature à l'Université de Vancouver. Au début des années 60, ses parents ont fui la misère de Trinidad pour s'installer à Scarborough, dans la banlieue de Toronto. Pas un mauvais quartier, mais où les nombreux immigrés suscitaient méfiance et ostracisme. Les deux premiers romans de David Chariandi, Soukounian et 33 tours, racontent le quotidien de jeunes garçons mal à l'aise dans cet entre-deux de culture et dont le futur est compromis par les préjugés envers eux. 50 ans plus tard, le racisme ordinaire n'a guère changé. L'élection de Trump et ses discours haineux envers les immigrés font remonter ses souvenirs. David Chariandi publie aujourd'hui chez Zoé, traduit par Christine Raguet, une lettre à sa fille intitulée « Il est temps que je te dise » et Xavier Combes sera notre interprète. Bonsoir David Chariandi.
Bonsoir.
Dans vos deux précédents livres, également parus chez Zoé, 33 tours et Soukounian, vous abordiez déjà ce sujet de l'immigration dans les banlieues du Canada et sous la forme de fiction. Et aujourd'hui, vous traitez le même thème avec un essai, cette lettre à votre fille sur le racisme. Pourquoi avoir changé de mode d'écriture? Est-ce que vous pensez que la fiction n'arrivait plus à contenir ce que vous aviez envie de transmettre à votre fille, à vos enfants?
It's a very good question. I'd like to think that fiction or in fiction one can confront the most difficult subjects.
J'aimerais penser que avec la fiction, on pourrait aborder les sujets les plus difficiles et évoquer l'intimité, l'intériorité, ce qui permettrait aux gens de voir la vie de points de vue différents. Cela dit, en 2017, ma fille a eu 13 ans. Un moment, à mon avis, c'est un moment très important dans la vie d'un enfant. Et en 2017, il y a eu des événements qui ont marqué l'histoire de notre monde et elle a commencé à se poser des questions sur l'histoire, l'appartenance à différents groupes, à la politique et ainsi de suite. Donc je me suis dit que j'allais lui écrire directement à propos des vérités de ma vie et de la vie de mes parents. Je me suis dit que ce serait pour elle le moyen d'envisager sa vérité en, comme étant membre d'une minorité visible au Canada.
David Chariandi, dans les premières pages de cette lettre ouverte à votre fille, vous racontez un incident qui s'est produit des années auparavant, puisque vous écrivez à votre fille pour son 13e anniversaire, et cet incident remonte à son 3e anniversaire. Et en plus, il a lieu dans un de ces cafés qui se trouve à Paris, à New York, à Vancouver, à Toronto, un café éthique, bio, dans lequel une femme qui va se fournir dans cet endroit, donc qui théoriquement représente la bien-pensance, quelqu'un de bien intégré, va tout d'un coup se méfier de vous et faire des réflexions désagréables. Et vous avez mis 10 ans avant de l'écrire. Et c'est un incident mineur par rapport à certains que vous décriviez dans vos précédents livres. Pourquoi est-ce que ce tout petit incident, au fil du temps, 10 ans, est devenu quelque chose qui vous ronge manifestement?
Cette question est non seulement bonne, elle est parfaite. En effet, il s'agit du cœur du livre. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est un incident qui n'a aucune importance dans le cours de ma vie. Des situations comme celle-là, malheureusement, elles se produisent sans cesse aux gens de couleur, aux gens d'Asie du Sud-Est ou ailleurs, au Canada et ailleurs, je l'imagine. À vrai dire, quand je dis ailleurs, c'est les pays où on se croit au-dessus des problèmes du racisme. Je me suis rendu compte que pour aborder l'histoire profonde et parfois très violente du racisme, il fallait que j'ancre les choses dans le quotidien. Donc, les façons quotidiennes dont on fait penser aux immigrés que soit ils appartiennent au pays, soit ils n'y appartiennent pas. Et cet incident est assez ironique, car ma fille et moi, on ne connaît pas d'autres pays que le Canada. Nous sommes tous deux nés au Canada. C'est le seul pays que l'on connaisse. Et malgré cela, de façon plus ou moins subtile, on nous fait comprendre qu'on pourrait ne pas faire partie du Canada. Et cette perception erronée des gens, et que nous comprenons bien, peut avoir des incidences. Dans votre question, vous évoquez un aspect qui est lui aussi au cœur de mon livre. Pourquoi hésiter à aborder cette question? Pourquoi relater cet incident tant d'années après? Eh bien, je crois que c'est parce que les parents, d'une façon générale, hésitent à évoquer des questions difficiles. Les parents veulent toujours imaginer que leurs enfants vivront un monde meilleur et qu'ils n'auront pas à relever les défis que eux, les parents, ont vécu. Et moi, je crains que cela constitue un problème lorsqu'on est parent. Lorsqu'on est parent, il faut dire la vérité et on a tendance à ne pas toujours dire la vérité. Et nous, parents, nous devons relater la vérité justement parce que nos enfants observent les choses bien plus qu'on ne le pense et ils comprennent les choses avant qu'on ne propose notre aide. Par conséquent, il faut vraiment leur dire la vérité et leur montrer la vérité telle qu'elle est.
Dire la vérité aux enfants, David Chariandi, c'est effectivement un passage de votre livre. Et d'ailleurs, on va en écouter la lecture tout de suite. Comment les enfants font-ils pour connaître l'histoire de leurs parents quand ceux-ci ne disent rien?
Même sur leurs premières années au Canada, mes parents s'étaient montrés très réservés dans leurs révélations. Ma mère était arrivée en 1963 comme employée de maison, un des rares moyens pour une femme noire d'échapper à l'époque aux restrictions à l'immigration. Au bout d'une année difficile et solitaire, elle a servi de garant à mon père. Et tous les deux, ils ont fait l'expérience d'un pays et d'une ville, Toronto, très différent de ce qu'ils sont à présent. Ils ont trouvé des amis et des soutiens. Mais tout seuls, ils ont été confrontés à bien d'autres incidents. On les dévisageait et on les humiliait dans les lieux publics. On refusait de les servir au restaurant. On leur disait tout net qu'ils ne pouvaient décemment pas espérer recevoir le même salaire pour leur travail que les Blancs. Et leur maison, quand ils ont fini par en louer une, a été ostensiblement vandalisée. « Comment as-tu su ?» m'ont demandé mon père et ma mère quand, un jour, j'ai écrit sur leurs expériences. Leur visage exprimait la surprise, quelque chose proche de la peur aussi, comme s'ils avaient involontairement révélé leur secret. Or, les enfants perçoivent toujours plus que ce que leurs parents voudraient dire. Les enfants lisent les histoires dans les pauses et les silences, dans l'agacement et la tristesse, dans le chagrin et la peur derrière les visages affichant l'assurance. Et les enfants choisissent parfois le silence. Un enfant ne va pas toujours raconter de gaieté de cœur, par exemple, comment lui, qui est issu de la classe ouvrière noire et vit dans une banlieue blanche de classe moyenne, en vient à incarner ce qu'on craint dans une ville et une nation en pleine mutation. Il hésite à exprimer ce qu'il ressent parce qu'il souhaite qu'on le prenne pour quelqu'un de fort, ou parce que c'est dans la nature même de la personne blessée que d'avoir honte de le laisser paraître. Ou peut-être qu'un enfant ne discutera pas de cette question avec ses parents parce qu'il en est tragiquement arrivé à croire que ce ne sont pas des faits historiques qui sont responsables de l'héritage racial, mais eux-mêmes.
David Chariandi est au cœur de cette lecture, de ce livre, Il est temps que je te dise, qui n'est pas publié chez Zoé. Il y a cette question des parents, mais comment as-tu su ? Or, quand on a lu vos précédents livres, on voit bien que vous racontez les histoires de vos parents avant même votre naissance. Donc les enfants savent, même quand on ne leur dit rien. Vous, c'est comme ça que vous vous êtes approprié la douleur de l'immigration vécue par vos parents. Ils n'ont rien raconté.
Mes
parents ne vont pas raconter les choses, et pourtant, ils me les ont transmises. Les parents transmettent plus qu'ils ne le pensent. Je crois qu'il y a beaucoup de vérité dans cette phrase. L'histoire du passé persiste. Et elle est relayée, même lorsque le récit n'est pas véritablement un récit raconté par les parents.
Mais au fond, David Chariandi, peut-être que justement dans cette expérience que vous faites aujourd'hui de l'essai, de la non-fiction, il y a justement cette envie de dire qu'au fond, quand les parents racontent, c'est peut-être mettre un point final à l'histoire. Il vaut mieux dire les choses aux enfants, de façon à ce qu'il n'y ait plus de fantasmes autour de l'histoire, qu'elle soit dite une fois pour toutes et qu'on puisse la prendre dans l'héritage.
Oui,
c'est précisément cela, oui. La parole est supérieure au silence dans tous les cas de figure. Même si l'on imagine que le silence est plus sécurisant pour l'enfant, raconter la vérité, c'est toujours, toujours mieux. Moi, je suis convaincu que lorsque l'on ne raconte pas le passé va nous hanter beaucoup plus que si l'on raconte l'histoire. Et lorsque l'on transmet le passé, lorsqu'on raconte l'histoire, on a une occasion à saisir. Cette occasion, c'est celle d'avoir de l'honnêteté, de la tendresse, de l'amour dans un dialogue avec des êtres humains d'une génération différente. Dans ce livre, de manière sincère et modeste, j'essaye de partager mon expérience telle que je l'ai vécue avec ma fille. Mais le but de l'exercice, c'est d'avoir en retour l'histoire de la bouche de ma fille. Il faudra qu'elle, elle m'explique ce que c'est que vivre dans son corps et comment elle, elle vit le racisme en tant que femme. Donc ce dialogue, c'est ça, le grand espoir qui réside dans mon livre.
Il y a autre chose dans cet héritage douloureux, David Chariandi, qui est sans doute très difficile à aborder avec les enfants, que même mettre du temps avant de mettre un mot sur ce fardeau, ça s'appelle la honte. Et à ce propos, vous citez James Baldwin, on va l'écouter.
Je veux dire, d'être noir américain, c'est pas la même chose qu'être noir n'importe où dans le monde. La première chose, c'est que tout le monde oublie qu'on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir. Mm-hmm. Il faut que quelqu'un vous explique ça un jour. Il t'appelle sa nègre quand tu as 5 ans, 4 ans, 7 ans. On ne demande pas pourquoi on m'appelle nègre, mais on demande comme s'il n'y a rien passé. Qu'est-ce que ça va dire, sa nègre? Mais évidemment, le père et la mère comprennent très bien qu'est-ce qui est arrivé. Et il essaie de te faire comprendre que c'est qu'un mot. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé. On se rend compte qu'on est méprisé, on ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on se trouve en danger, on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte, ce qui est pire, que ta mère, ta père, eux aussi sont condamnés de façon très, très mystérieuse. Donc personne ne peut te faire comprendre, même pas le mère et le père. Et on commence à se demander si on ne mérite pas cette condamnation. Et c'est là où le drame commence, quand on commence à mépriser soi-même.
David Chariandi, James Baldwin parle ici de quelque chose que vous racontez dans votre livre aussi. C'est le moment où l'enfant, découvrant le racisme dans les yeux des autres, commence, comme il n'a pas d'explication, à se dire qu'il le mérite, que c'est de sa faute. Et cette honte de mériter un traitement aussi dégoûtant est quelque chose qu'il faut traîner avec soi jusqu'à l'âge adulte. Et comment est-ce qu'on surmonte cette honte?
Yes, this is the this is the very, very worst thing about racism.
Oui, c'est ça qu'il y a de pire dans le racisme.
Damages
le racisme
in everyday life,
but that people internalize abîme les gens au quotidien, mais c'est l'internalisation du racisme qui fait plus de dégâts. Les gens qui font l'objet de racisme commencent à ressentir de la honte pour quelque chose qui n'est pas leur faute. Baldwin a 100% raison à bien des égards. Baldwin a raison car c'est le monde qui nous met une étiquette. Et si on a la chance ou la malchance d'être né dans tel ou tel corps, dans telle ou telle peau, eh bien on va porter à vie une étiquette. Et cette étiquette peut être dangereuse. Le projet de vie, c'est en fait de se nommer soi-même, de se mettre nous-mêmes l'étiquette que l'on veut porter sur le front. Et donc il s'agit de se renommer. Et pour y parvenir, il faut digérer les leçons du passé. Il lui faut raconter la vérité, non seulement du passé, mais du présent. Et il faut avoir des conversations sincères avec des gens qui vivent les mêmes défis. D'où l'importance de cette conversation intergénérationnelle que je mène avec ma fille.
Black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich
and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan, my hair is fine, my hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing.
Sur France Inter.
De nombreuses fois, dans mon bon quartier, on m'a appelé nègre. On aurait pu me traiter d'autres noms. Si j'avais grandi à Trinidad, ça aurait pu être Douglas. Si j'avais grandi ailleurs, à Londres, en Angleterre par exemple, ou dans une autre ville du monde fière de traditions d'immigration d'Asie du Sud, plus longue et plus riche, on aurait pu m'appeler Paki. En fait, je me souviens d'avoir traîné quelquefois au-delà de mon voisinage, les cheveux coupés courts, et c'est là que j'ai entendu ce mot pour me désigner. Mais dans le Scarborough de mon époque, j'étais le plus souvent traité de nègre, ou de macaque, ou de bamboula. Lorsque je croisais des groupes de garçons sur un trottoir, que je marchais, sur mes gardes, dans un centre commercial ou dans un couloir d'école qui se rétrécissait soudain, je savais qu'on pouvait me bousculer ou me faire un croche-pied, qu'on pouvait me lancer des choses. Deux fois, j'ai parfaitement senti le léger impact d'un crachat humide sur mon crâne, et quand je me suis retourné, j'ai vu un groupe de garçons ricaner. Bien que je me sois trouvé incapable de dire lequel avait eu l'audace et la méchanceté d'accomplir un tel acte. Dans mon enfance, une bonne part de mon énergie et de mon attention était consacrée à la surveillance des présences physiques autour de moi, à lire les sourires masquant des intentions potentiellement mauvaises, à être sur la défensive quand j'entendais des rires à proximité. Se faire insulter a des conséquences. Qu'on soit un nègre ou un paki, qu'on soit un chintok ou une salope, ou un PD, ou un gros lard, ou un minable, ou tout autre mot qui n'est ni équivalent, ni interchangeable. Néanmoins, même dans le silence de cette page, et dans mon effort pour être honnête et protecteur aujourd'hui, ils blessent et sont pleins de sous-entendus. Ils ont un effet néfaste sur la personnalité. Il était facile pour moi de croire que j'étais bien un fauteur de troubles, ou un rigolo, fondamentalement indigne de confiance, un prédateur et un pervers en dépit de ma timidité, que je n'étais pas vraiment fait pour l'école, ni pour réfléchir à des sujets sérieux en général. Je n'avais pas trop de projets d'avenir et j'imaginais qu'au fond, il y avait en moi quelque chose de déplaisant, une odeur huileuse pas totalement attribuable au curieux plat que servaient mes parents, mais une sécrétion de mon corps, de ma peau.
David Chariandi, dans votre livre, vous racontez ce glissement qui se produit souvent chez les enfants de l'immigration entre avoir peur des réactions que suscite votre couleur de peau, à faire peur, c'est-à-dire adhérer à l'image que les gens vous rendent, voient de vous. Et que vous racontez quelque chose sur le corps des hommes noirs en disant, après tout, puisque nous faisons peur, eh bien, allons-y, endossons ce rôle du corps noir qui fait peur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance avec les garçons que vous décrivez, notamment dans 33 tours, qui sont des jeunes garçons très tendres et des enfants, et qui peu à peu deviennent des gangsters parce que, au fond, c'est l'image qu'on leur envoie d'eux et que c'est confortable d'habiter ce genre d'image?
I think this speaks to the challenge of being named.
Je crois qu'il s'agit là de l'enjeu d'être nommé, étiqueté. Lorsqu'on vous nomme d'une certaine façon, lorsqu'on lit votre visage d'une certaine façon, c'est parfois difficile, voire impossible, de ne pas souscrire à la perception que les autres ont de vous. Et de nombreux hommes de couleur, notamment les hommes noirs, sont perçus comme étant effrayants parfois. Et moi, j'ai assisté à des scènes où j'avais des amis noirs qui ont adopté des aspects de rudesse. Ils jouaient les gros durs et ils portaient un masque pour faire peur. Ainsi, ils créaient leur propre identité, et ce, dans les contraintes qu'on leur imposait.
Mais David Chariandi, ce qui est intéressant dans ce dernier livre, La lettre à votre fille, c'est qu'au fond, vous montrez que vous avez été sans doute plus fort que vos parents pour vous intégrer dans cette société brutale, mais que votre fille, telle que vous la décrivez, pratiquant des sports de combat, héritière de votre côté de toutes ces races mélangées venues de la Caraïbe et du côté de sa mère de la bourgeoisie WASP, hein, elle est beaucoup plus forte que vous. Et on a l'impression qu'à chaque transmission de l'histoire dans votre famille, il y a quelque chose qui se développe, qui est la force, au fond, la force de caractère, la force d'affronter clairement les racistes. Et quand votre fille, notamment dans un incident que vous relatez, va trouver les gens qui ont traité son jeune frère de sale nègre, elle y va elle-même toute seule et elle les affronte. Donc, au fond, est-ce que c'est une vision assez optimiste de cette histoire? À partir du moment où on dit son histoire à ses enfants, cela peut aller encore plus loin?
Je voudrais croire à ce pouvoir du récit, de cette transmission, que les choses progressent. Lorsque l'on se sent bien dans sa peau, et ce serait un progrès sociétal aussi. En effet, on peut espérer que la société sera plus tolérante, qu'elle acceptera les différences. Même au-delà de ça, il faudrait que l'on valorise l'importance des différences dans un monde complexe. Et bien entendu, je tiens ma fille dans un respect très très fort. C'est quelqu'un de formidable. Peut-être y suis-je pour quelque chose, mais en tout cas, je n'y suis pas pour tout dans sa personnalité et dans sa force de caractère. Mais en même temps, je crains que nous nous racontions un mythe. Nous nous disons que génération après génération, nous allons progresser dans la façon dont nous abordons certains problèmes. Et on espère que génération après génération, la société sera faite de plus de tolérance. Et ce mythe s'est évanoui pour moi en 2017. En effet, il m'est alors apparu que dans pas mal de pays dans le monde, c'est l'intolérance qui gagne du terrain. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre rapidement. Et si nous étions menacés d'un passé dont on espérait qu'il ait à tout jamais disparu.
David Chariandi, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée, mais pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que votre fille a pensé de votre livre ? Est-ce qu'elle a découvert des choses ou est-ce qu'elle vous a dit « je savais déjà tout ça » ? Et est-ce qu'elle vous a dit de ne pas vous en faire ?
En réalité,
j'ai ressenti le besoin de demander à ma fille la permission d'écrire ce livre avant de prendre le stylo en main. Je lui ai demandé la permission d'écrire le livre et de le publier. Elle m'a dit « oui, mais moi, je veux lire tout ce que tu écris chapitre après chapitre avant que tu l'envoies à quiconque. » Et elle m'a dit « je lirai ce chapitre et puis je verrai si je le valide. Et si je le valide, eh bien tu pourras passer au chapitre suivant. » Alors, je me souviens clairement du premier chapitre, j'ai eu peur de lui montrer. Bref, j'écris le chapitre, je lui donne, elle va dans sa chambre. Une heure plus tard, elle revient. Elle m'a regardé et sans me parler, elle m'a pris dans ses bras. C'est le plus grand honneur que l'on puisse ressentir en tant qu'écrivain.
Les enfants savent consoler leurs parents. C'est en ça que l'on peut espérer, en tout cas, David Chariandi. Je voudrais vous remercier d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que ce livre qu'il faut lire s'appelle « Il est temps que je te dise, lettre à ma fille sur le racisme ». Il est traduit par Christine Raguet, il vient de paraître aux éditions Zoé. Et vos précédents livres, on peut les trouver, il y a 33 tours et il y a surtout Soukounian qui vient également d'être republié en poche avec une préface de Patrick Chamoiseau qui nous vient de la Martinique. Merci à vous David Chariandi, merci beaucoup.
Oh, merci. It has been a great honor and pleasure. Thank you.
Et merci à Xavier Combes, bien sûr.